Chapitre 46. Alors qu'elle rangeait ses affaires dans sa valise, Patrick avait essayé de l'appeler, mais elle n'avait pas répondu. Il lui avait donc laissé un message au sujet du numéro de portable, celui fourni par Henry Cobb, qu'elle lui avait demandé d'analyser. Ce numéro, il n'y avait aucun doute, était celui de Lizine Bart, domiciliée au Ménilamlot. Une sentence qui ne fit que confirmer ce qu'elle savait déjà. Elle était bien Ariane, seule détentrice des clés d'un labyrinthe dans lequel elle s'était elle-même égarée. Et elle refusait de passer une nuit de plus dans une maison qui n'était pas la sienne, une habitation qu'elle avait squattée comme un parasite pendant que sa véritable propriétaire croupissait au fond d'une cave. C'était abominable. Ariane avait honte. Terriblement peur aussi. En partant, elle n'eut cependant pas d'autre choix que d'emprunter, encore une fois, la voiture de Lizine. Elle glissa son bagage, ainsi que son cahier plein de sa documentation sur les HES, dans le coffre. Elle était seule, perdue, sans racines, sans bien, sans rien. Monstrueuse et malade. Il ne lui restait qu'une bouée à laquelle se raccrocher, le psychiatre. Peut-être saurait-il répondre aux innombrables questions qui se bousculaient dans sa tête, la privant du moindre répit. Elle se gara dans le centre-ville de Compiègne une heure plus tard. Le cabinet d'Olivier Martin était annoncé sur une plaque fixée à la façade d'un immeuble en pierre. Ariane appuya sur un interphone et pénétra à l'intérieur. Après avoir monté l'escalier, elle se présenta à la bonne porte, frappa et attendit, nerveuse. Elle échangea un regard gêné avec une habitante qui descendait promener son chien. Le battant s'ouvrit sur le visage d'un homme d'une quarantaine d'années, le genre de type qui inspirait une confiance aveugle, sans doute en partie grâce à son allure décontractée. Il avait visiblement renoncé à sa blouse aseptisée et avait retroussé jusqu'au coude les manches de sa chemise qui flottaient par-dessus son jean. Des vanités ou de simples anneaux argentés ornaient chaque doigt de sa main droite. Entrez. Il referma derrière elle et la pria de s'asseoir dans un fauteuil, alors qu'il s'installait en face d'elle, l'air inquiet. Une table basse posée sur un tapis clair les séparait. La pièce était sobrement aménagée, dans un style épuré. Carrelage beige au sol, mur blanc sans décoration, une bibliothèque garnie, un bureau entouré de trois chaises, ainsi qu'un divan avec des oreillers dans la partie salon où il se trouvait. « Est-ce que vous avez le souvenir d'être venu ici ?» demanda le psy d'une voix calme.
« Je suis désolée, » articula-t-elle péniblement. « Tout ça ne me dit rien. Mais vous, savez qui je suis, n'est-ce pas ?»
Il acquiesça.
« Je crois que Lizine voulait m'aider, » poursuivit Ariane. Mais le problème, le très grave problème, c'est que je viens de découvrir que j'ai pris sa place sans m'en rendre compte.
Elle se massa le front dans un soupir.
J'habite sa maison, je conduis sa voiture, je dors dans son lit, je ne suis même pas certaine que ses vêtements soient les miens. Je me suis approprié son métier. Aujourd'hui, je bosse peut-être dans les faits divers à Rouen simplement parce que j'étais persuadée d'être journaliste. Mais je ne suis pas journaliste. Pas plus qu'artiste peintre. Je ne me souviens de rien, docteur, ni de vous, ni du reste. Qui suis-je ?
Il parut aussi déstabilisé qu'elle. Après un temps de réflexion, il se pencha en avant, les mains jointes entre ses cuisses. Tout d'abord, est-ce que vous savez où est Lizine ? C'est une amie. On a fait notre scolarité ensemble jusqu'au lycée et je n'ai plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Ariane ne pouvait pas lui révéler la vérité. Pas maintenant. Pas aujourd'hui.
Tout ce que je sais, c'est qu'un jour je suis rentrée d'un footing, raconta-t-elle, et la maison avait été visitée. Elle était sans dessus-dessous. J'ai téléphoné à la police en étant convaincue de... d'être Lizine. C'est difficile à expliquer, mais malgré ces trucs bizarres avec ma mémoire, jamais, absolument jamais, je n'ai douté de mon identité. Je vous promets que je ne mens pas.
De quel truc bizarre parlez-vous ? Elle lui résuma la situation, se confiant sur cette impression récurrente que tout se mélangeait dans sa tête, ou qu'elle inventait des choses, et puis sur ces objets ou visages qu'elle ne reconnaissait pas. Olivier Martin était de plus en plus perplexe. Mais ce qui prenait le pas, à présent, c'était son inquiétude pour Lizine.
Il a dû lui arriver quelque chose de grave. Quand elle est venue ici, avec vous, elle travaillait sur un sujet dont elle ne voulait rien me dire, mais qui semblait très important. Elle était nerveuse et vous, vous aviez l'air d'être au cœur de ses préoccupations. J'ai vérifié dans mon agenda. On s'est vu la dernière fois il y a plus de 4 mois. Je ne peux plus attendre comme ça. Demain, j'irai au commissariat.
Ariane serra les lèvres en acquiesçant. Au fond, cette décision la soulageait. Il fallait que tout cela s'arrête. Le psychiatre lui demanda ce qu'elle avait fait après le cambriolage, de quelle manière elle avait réussi à découvrir qu'elle était Ariane. Elle relata alors son installation à Rouen, son job au courrier normand, son retour pour vendre la maison, les frigos, la fresque du labyrinthe, sa rencontre avec Zaz, mais omit volontairement toute la partie concernant le film. Après l'avoir écouté en silence, le thérapeute se leva et alla piocher un bouquin dans sa bibliothèque. Il le lui tendit. Le voyageur sans bagage, de Jean Anouilh. Une pièce de théâtre publiée en 1937. C'est l'histoire de Gaston, un blessé de guerre recueilli amnésique dans une gare de triage en 1918. Au fil du récit, on lui apprend qu'il se prénomme Jacques Renaud. Ce que Gaston réfute, tout comme l'environnement familial qu'on lui présente, parce qu'ils ne correspondent à aucun des souvenirs qui sont venus combler sa mémoire. Pour le convaincre, il faudra lui apporter des preuves formelles que tout ce qu'il a en tête est faux, et que, à cause des traumatismes qu'il a subis, il s'est en réalité inventé une vie qui n'était pas la sienne. Ariane observa la couverture du livre. Un homme et son reflet, avec un bandeau noir sur les yeux. La première fois que je vous ai rencontré, vous m'avez immédiatement fait penser à ce personnage, poursuivit le psy. On vous avait trouvé sous un pont, sans bagage, au sens propre comme au figuré. Vous vous rappeliez uniquement votre prénom et vous dessiniez des labyrinthes, ce qui m'a amené à imaginer que ce prénom, Ariane, était également un écran de fumée destiné à vous éloigner encore plus de votre passé, à le rendre inaccessible. La jeune femme recevait chaque mot du spécialiste comme un coup de poing. Avant d'avoir été Lizine, elle avait été Ariane. Et avant Ariane, sans doute une autre personne encore. Où se nichait sa véritable identité? Dans quel repli de son cerveau? Elle eut alors l'image de ces poupées gigognes qui en cachaient toujours une supplémentaire, même quand on croyait que c'était la dernière.
Selon vous, ma pathologie découle d'un choc, c'est ça? De quelque chose que j'aurais essayé d'enfouir?
Probablement. Son regard se perdit un instant dans le vague. Ses cauchemars. La main aux doigts recroquevillés qui remontait du fond de sa gorge. Toutes ces angoisses inexplicables. Mais vous ne souffrez pas seulement d'amnésie. Dans le jargon, on parle de fugue dissociative. C'est-à-dire que le malade, en plus d'avoir oublié son passé, fuit sa famille, ses amis, son emploi, parcourt parfois des centaines de kilomètres pour se retrouver dans un environnement nouveau. Bien que ce ne soit pas prémédité, la fugue psychique est comme un moyen de se redonner une chance puisque plus rien ne le raccroche à sa vie d'avant. Ensuite, le cerveau détestant le vide, dans de nombreux cas, il comble la mémoire défaillante en inventant. Et l'illusion est si parfaite que la plupart du temps, les autres n'y voient que du feu. D'autant que si quelqu'un décèle une incohérence, le malade s'adapte ou ment en croyant dire la vérité. L'inconscient veille en permanence pour que rien ne trahisse ce monumental hold-up identitaire. Vous habitez la maison de Lizine. Je suppose qu'il n'y a aucune photo d'elle exposée, n'est-ce pas?
Ariane secoua la tête.
C'est normal. Vous avez probablement tout jeté ou remisé dans un coin, mais sans mauvaises intentions. Ces photos représentaient juste un grain de sable dans la mécanique de la maladie mentale, alors vous les avez écartées. Il arrive parfois que l'usurpation dure des années avant que quiconque s'aperçoive de quoi que ce soit.
La jeune femme pensait aux mots de Zaz. L'oubli de l'oubli. Les faux souvenirs créés pour justifier son installation au frigo. Elle n'avait alors plus été une amnésique sans passé. Elle était devenue une artiste peintre chassée de chez elle par ses parents. Pourquoi je ne suis pas restée Ariane? J'ai fait une seconde fugue psychique?
C'est ma théorie. Vous avez agi tel un Bernard l'ermite qui change de coquille lorsque la précédente n'est plus assez grande ou solide. Ariane devait être dans une situation qui la mettait en danger ou qui risquait de la rapprocher du trauma originel. Le jour du cambriolage, vous avez subi un choc en même temps que vous avez trouvé une coquille vide. Alors vous vous y êtes fait votre nid, naturellement. Un objet, un visage, un événement peut suffire à provoquer la bascule.
À ce moment, j'ai pris la place de Lysine.
Instantanément. Comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur dans votre tête. C'est très rare qu'une fugue psychique succède à une autre. Ce que vous avez vécu doit être d'une violence inouïe pour que votre esprit verrouille tout ainsi. Ariane se sentait impuissante. Elle avait la sensation que le mal était ancré en elle, qu'elle vivait avec un parasite dont elle n'arriverait jamais à se débarrasser. Avec Lysine, vous ne partiez pas d'une identité vierge inventée de toutes pièces, enchaîna le docteur Martin. Vous aviez habité chez elle, aviez vécu à ses côtés, l'aviez observée et ce durant plusieurs mois. Quand vous avez prévenu la police, vous étiez elle, sincèrement. Vous pensiez qu'on vous avait volé vos papiers, votre téléphone portable, mais vous n'en aviez tout simplement pas. Cette effraction a gommé les incohérences qui auraient pu vous faire douter, d'autant qu'elle vous a également offert un prétexte pour fuir. Une nouvelle vie dans une autre ville, un nouveau métier. Là-bas, personne ne vous connaissait. L'illusion était parfaite. Tout ça était complètement fou, mais ça tenait la route. Car les incohérences et les événements étranges s'étaient bien multipliés dès son retour au Ménil.
Ça expliquerait notamment cette histoire d'accident de ceux que j'imaginais être mes parents,
marmonna-t-elle comme pour elle-même.
J'ai dû lire le fait divers de la chute du bus alors que j'étais Ariane. Mon cerveau aurait pris ce souvenir-là et l'aurait seulement un peu transformé pour en faire celui que j'ai aujourd'hui en tête.
Exactement. Les parents de Lysine sont bien morts, il y a 5 ans, mais c'était dans un carambolage sur l'autoroute A1. Lysine a certainement eu l'occasion de se confier à vous à ce sujet. Lorsque vous êtes devenue elle, vous vous êtes ni plus ni moins réapproprié ce souvenir extérieur qu'on vous avait rapporté, afin qu'il soit profondément ancré en vous et que rien ne le remette en question. La jeune femme était à 2 doigts de craquer. En effet, si les inexactitudes à propos de l'accident s'expliquaient, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les images et d'autres scènes liées à ce drame. Elle était, par exemple, encore certaine d'être allée sur place, à la frais, d'avoir vu la rambarde défoncée, les corps alignés dans une morgue. Et elle peinait à accepter que tout cela n'était que fantasmé, inventé pour combler des vides. Que tout cela soit faux.
J'ai peur, docteur. Peur de celle qui se cache au fond de moi. Qui est-elle? Qui suis-je? Pourquoi est-ce que je vis ce calvaire? Comment on s'en sort?
Il n'y a malheureusement pas de solution miracle. On peut essayer la psychothérapie pour tenter d'accéder à la personnalité initiale, ou l'hypnose, associée à l'administration de médicaments. Mais la réalité, c'est que vous souffrez d'une maladie extrêmement rare et complexe. Une maladie peu documentée. Et il faut bien comprendre que votre inconscient dressera toutes les barrières possibles et imaginables pour vous empêcher d'atteindre la vérité. Ariane, ou qui qu'elle fût, était de plus en plus perdue. Elle tripota sa carte d'identité, observa son visage photographié dans un photomaton. Tout le monde avait été trompé, elle la première. Elle releva les yeux vers le psychiatre.
Est-ce que ça va se reproduire? Est-ce que je vais oublier Ariane, Lysine et changer de coquille de nouveau?
Je vous mentirais si je vous garantissais que ça n'arrivera pas, répondit le spécialiste. Un état de stress intense, l'angoisse sont des facteurs susceptibles de pousser votre esprit à vous fournir une énième enveloppe protectrice. Vous pourriez très bien vous réveiller un jour en étant quelqu'un d'autre, oui, et fuir encore une fois. Sur ces paroles, son interlocuteur se dirigea vers son bureau. Je travaille aussi au service psychiatrique du centre hospitalier de Compiègne, 2 jours par semaine. Je vais vite vous fixer un rendez-vous là-bas. Nous commencerons par une batterie d'examens neurologiques. Je voudrais avant tout m'assurer qu'il n'y a pas de lésion cérébrale ou de dysfonctionnement purement physique des zones liées à la mémoire. Selon les résultats, nous envisagerons ensuite différentes voies thérapeutiques. Il revint vers elle et lui tendit sa carte. Gardez-la sur vous. Je me renseigne sur la disponibilité du scanner et je vous rappelle dès que j'ai un créneau. Je m'occupe aussi de contacter la police pour Lizine et de leur expliquer clairement ce qui vous arrive. Il est probable qu'ils viennent vous voir, mais je serai là. Je ne vous abandonnerai pas, d'accord ? Ariane serra le rectangle cartonné dans le creux de sa main. Elle avait envie de lâcher toute la vérité sur le film, sur le meurtre de Romy, de lui révéler qu'il ne reverrait plus son amie d'enfance, parce qu'elle avait été torturée et assassinée par des monstres. Pourtant, elle se tut. Car auparavant, il lui restait une dernière étape à franchir. Jérémy Théobald. Elle se devait d'aller aussi loin que possible. Pour Lizine, qui avait voulu lui venir en aide, qui l'avait accueillie chez elle, qui peut-être était morte en essayant de la protéger. C'était le moins qu'Ariane pût faire. Et puis, de toute façon, elle n'avait plus rien à perdre.